Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Grand Ciel et voici la revue de presse des mensuels chrétiens. Je suis seule avec Liliane Dazin. Bonjour Liliane.
Bonjour Karine.
Muriel n'est toujours pas guérie, Muriel est toujours au lit. Muriel, nous pensons à toi et donc nous allons essayer de faire cette revue de presse à deux. Je vous demande toute votre indulgence. Alors, nous allons commencer par l'actualité avec Liliane.
Voilà, je prends la place de Muriel. Dans les cahiers croire, je vous rappelle qu'il y a trois cahiers, un cahier biblique, un cahier théologique et un cahier pratique. Alors donc j'ai choisi le cahier pratique, ce sont des électeurs et des élus qui disent pourquoi ils s'engagent. Alors chacun y va de son témoignage. Par exemple, Marc Vanson dit qu'il s'est engagé dès l'âge de 17 ans et qu'il avait lu avant la lettre de Jean-Paul II, qui est donc « Les fidèles laïcs ». Il a vite compris que le candidat parfait, ça n'existe pas. Alors il a une phrase amusante, il dit « L'élection, c'est pas une canonisation ».
Ah, c'est joli ça.
Si on s'engage, il faut le faire, dit-il, avec courage, mais aussi discernement. Alors actuellement, il a quitté le parti où il s'est engagé, il ne dit pas lequel, hein, et il s'engage dans l'éducation de la jeunesse pour la politique. Avec des acteurs de terrain, il propose aux responsables politiques de tous bords et aux professionnels de l'éducation des pistes de réflexion sur tous les sujets qui touchent la jeunesse. Et puis on a Anne Gérardin, qui est membre de la communauté de vie chrétienne. Je crois que c'est ignatien.
Tout à fait.
Alors elle dit « L'élection d'un responsable se fait après réflexion et décision. Un membre de l'équipe assure un service pendant 3 ans. À la fin, il fait le bilan en soulignant ce que ce service lui a apporté. Chacun parle à tour de rôle pour être ou pas le responsable suivant. Et puis on vote à bulletin secret. » À majorité simple. Ensuite, c'est un maire de 25 ans, c'est jeune, hein, de Juvisy-sur-Orge. Il dit qu'il a commencé, lui, à militer à 15 ans.
Eh bien.
Il dit qu'une élection se construit en allant sur le terrain, loin de toute combinaison partisane. Écoutez bien ça. Il faut garder la tête froide pour se concentrer sur le terrain. Il revient sans arrêt sur le terrain. Il pense qu'une élection, ça se joue sur une personnalité et un message. Et enfin, une des premières femmes à avoir voté, elle a actuellement 95 ans. Elle a été employée dès l'âge de 14 ans et elle est mère de 7 enfants. Alors elle était militante de la JOC. Elle a grandi donc dans une fratrie de 8 enfants dominée par des garçons. Voilà. Alors on parlait politique à table, donc elle a été imprégnée de politique depuis toute jeune. Et elle a voté pour la première fois le 29 avril 1945, juste après le général de Gaulle a donné... Le droit de vote aux femmes. Elle dit que pour elle, elle dit que qu'une femme puisse voler sur des mystères et franchir le mur du son, comme l'a fait Jacqueline Auriol, par exemple, eh bien, elle dit que ça a plus fait pour valoriser l'égalité des sexes que finalement l'obtention du vote pour tout le monde. Voilà,
mais comme
c'est
quoi,
tout.
Ça remonte pas si loin que ça, hein, le droit de vote pour les femmes, quand on regarde bien. Alors moi, je bascule sur la partie culture, avec Panorama de février 2017, qui a en une Amélie Nothomb. Alors, Amélie Nothomb, hein, vous la connaissez. Comment vous dire, on la connaît à travers une personne un peu bizarre, assez fantasque, on peut même dire provocante. Et là, on découvre quelqu'un qui n'a de cesse de rechercher le sens profond de la vie et pour qui Dieu, la vie, le Christ, ce sont des sujets essentiels pour elle. Alors vraiment, c'est un article à lire. J'ai vraiment découvert une femme libre, centrée sur l'humain, sur la dignité de l'homme, et vraiment amie de Dieu. C'est étonnant. Elle nous parle... Alors je vous donne quelques morceaux choisis. Par exemple, « Le sens de l'autre est une forme supérieure d'intelligence. C'est ce que Perrault appelle l'esprit. C'est-à-dire l'intelligence de l'autre, tournée vers l'autre, qui permet d'appréhender chaque nouvelle personne comme un univers à part entière, comme un langage, et d'apprendre ce langage au point de le parler. » Je trouve ça super. Ou bien encore, Jésus est terriblement important pour moi. C'est une source d'inspiration quotidienne. Heureusement, le Christ est arrivé tôt chez moi. Il m'a beaucoup nourri. Et c'est là où on apprend qu'en fait, elle a rencontré le Christ toute seule et elle avait peur de ses parents qui avaient perdu la foi. Et elle priait toute seule, elle allait à la messe sans le dire, elle osait faire son signe de croix quand on la regardait pas. Voilà, elle raconte tout ça, c'est très étonnant. À découvrir donc dans ce Panorama de février 2017. Et dans la sélection culture, vous pourrez trouver et les Mistral gagnants, dont on avait déjà parlé dans une ancienne session, qui nous montrent la vie à travers des yeux d'enfants touchés par des pathologies graves et qui nous donnent une leçon de vie et de bonheur. Vraiment à voir ce documentaire de Anne-Dauphine Julien. Alors, dans la partie culture, j'ai aussi relevé pour vous dans les cahiers croire. Alors ça s'appelle « Le cantique de l'infinistère », écrit par le moine François Quincingena Trévedi. C'est le livre sur une méditation sur la marche. Et il se pose la question « Pourquoi s'en va-t-on à pied ?» Et alors il répond par trois réponses. D'abord pour faire alliance, comme Dieu dit à Abraham « Lève-toi et marche, va, avance », pour se laver de ses soucis terrestres et s'ouvrir au spirituel, et pour adorer. Donc ça, c'est quelque chose à retrouver dans le cahier Croire. Et je vais finir par Le Monde des Religions, qui a une très jolie couverture. Je vous invite à la regarder sur les. On voit vraiment une sorte de photomontage de toutes les représentations à la fois du Christ, de divinité, etc. Je trouve qu'ils ont été assez inspirés sur ce mois-ci. Et j'ai relevé pour vous, dans la collection Simèze, le musée du Quai Branly, avec les signes de croix. Figurez-vous qu'il y a eu des peuples africains qui ont rencontré la religion chrétienne à partir du XVe siècle, et ils ont produit plein d'objets sacrés dans leur culture à eux, mais teintés de christianisme. C'est très beau à voir, et c'est à voir jusqu'au 2 avril au Quai Branly, et ça, c'est le Monde des Religions qui va pouvoir vous en parler. Voici pour la partie culture, nous allons revenir auprès de Liliane pour le côté spiritualité de nos mensuels.
Alors, les cahiers croire, janvier-février donc 2017, toujours divisé en trois parties, et là, j'ai pris donc la partie cahier théologique. Donc, les élections, c'est toujours sur les élections,
oui,
c'est
un
grand thème cette fois-ci, hein. Les élections dans l'Église. Alors, cette dernière pratique l'élection depuis fort longtemps, et on peut tout de suite dire que les papes ont été élus, d'abord par les habitants de Rome, tous les habitants, hein, c'était pas que les,
c'était pas que les nobles.
Non, les évêques jusqu'au XIe siècle, tout ça, c'était élu les évêques par le clergé et le peuple du diocèse. Alors maintenant, évidemment, le pape, il est élu par les cardinaux. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il est le représentant des cardinaux, hein.
Ah, absolument.
Voilà. Mmh. Et il faut une majorité des deux tiers. Et puis aussi, concernant les évêques, jusqu'au XVIe siècle, ils étaient élus par les chanoines de la cathédrale où ils étaient. Et puis à partir du XVIe siècle, les chefs d'État ont nommé les évêques et le pape ratifiait la chose. D'accord. Alors que maintenant, au XXe siècle, il n'y a que le pape qui a le droit de nommer les évêques. Dès les origines, les abbés et les abbesses, alors c'est aussi, tu vois, ont été élus par les moines et les moniales. Mmh. Hein. Alors pourquoi tous ces rappels? Quelles leçons en tirer? Ben d'abord, la grande diversité des cas de figure dans l'histoire, bien sûr.
Rien n'est définitif.
Lorsqu'il y a élection dans l'Église, il s'agit de pourvoir à une fonction. Le pape, comme je vous disais tout à l'heure, ne représente pas les cardinaux, mais sa légitimité vient de Dieu, d'où le caractère essentiel, n'est-ce pas? C'est la consécration de l'ordination. Mmh. Hein. Alors, deux exemples d'élus. On a l'abbé Grégoire, 1750-1831, qui a été élu, hein, élu au tiers d'État, puis à la législative, puis à la Convention. Et les cendres reposent au Panthéon depuis 1989 de l'abbé Grégoire. Et puis Nelson Mandela, dont j'ai raconté la vie.
Et oui,
dans la figure de l'histoire. Voilà. Oui. Dans Le Monde des Religions, numéro 81, janvier-février. Alors il y a toujours un gros dossier. Et là, le gros dossier, c'est quelles sont nos racines religieuses. Je n'en ai pas parlé la dernière fois, parce qu'on n'avait pas la revue. Hein.
Exact.
Alors, la question de l'identité nationale se pose souvent dans les débats publics. Alors, en dehors des polémiques, il y a des spécialistes qui essaient d'expliquer la complexité de notre culture. Alors, un premier texte de Laurent Testot, qui est journaliste, nous dit que l'on met souvent en avant l'héritage judéo-chrétien, et puis qu'on passe sous silence la culture païenne. Mais elle existe souvent, quand même. Il cite les Romains, mais aussi ceux qu'on appelait les barbares, c'est-à-dire les Germains, les Gaules, les Francs, les Alains, tout ça, les Vandales. Alors, après ça, il y a un article avec les portraits de Virginie Leroux. C'est Larousse. Et Bénédicte Lutard, les portraits de ceux qui ont été les principaux artisans de l'Occident chrétien. Alors, elle cite Constantin, ça on le savait, je crois, quand même, hein, 280-337. Théodose, je n'en savais rien du tout, 347-395. Clovis, 466-511. Et Charlemagne, 768-814. Puis un entretien avec Paul Venn, qui est historien spécialisé de l'Antiquité romaine, et professeur au Collège de France. Lui, il affirme que la question des origines chrétiennes de la France est un faux débat. Alors, je vous laisse lire la suite concernant les survivances des rites païens, l'influence du judaïsme et l'héritage musulman. Intéressant à lire.
Ah ouais.
Panorama maintenant. Panorama février 2017, le numéro 537. Le dossier c'est encore « Retrouvons le sens du politique ».
Oh, bah c'est d'actualité.
Petit rappel, la conférence des évêques de France, j'en ai déjà parlé, a publié récemment une lettre intitulée « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ».
Il y a plusieurs émissions que nous avons faites voilà. avec Didier Gougis.
On en arrive à une crise de confiance envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun. Un ancien conseiller de Pontarlier, François Mandil, il dit que « Ne pas participer à la vie collective, c'est être à moitié chrétien ». Et saint Paul lui-même, dans sa lettre aux Romains, enjoignait les premières communautés chrétiennes à respecter l'autorité politique. Alors, si je résume ce que disent les évêques, c'est être chrétien. C'est être porteur d'un message sur l'homme et le monde. La foi, ça n'est pas une affaire privée. Elle s'incarne dans la vie en société.
Voilà. Ça, c'est dit. Merci beaucoup, Liliane. Nous avons donc pu vous offrir cette revue de presse des mensuels chrétiens. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast, c'est-à-dire sur Internet et à n'importe quel moment téléchargée sur votre téléphone. Nous faisons un petit clin d'œil à Christian qui nous écoute à Arnage et à Geneviève qui nous écoute à Versailles grâce à ces podcasts. Liliane, à bientôt pour le mois prochain.
À bientôt, Karine.
Et à très bientôt sur Radio Grand Ciel.
Sans autre but, plus de passé, demain fourbu, dans le néant du froid de la rue. Quand les mots